Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment-devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Et ça chatte, Bienvenue dans la partie 2. Du live, je commence à être un peu fatigué là. La partie 2 du live sur l'orgasme prostatique. Bienvenue à tout le re-bienvenue à tout le monde. Cliquetis, cliqueta. J'ai pas très bien préparé mon intro. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'on est content d'être là. Que l'épisode 1 était très intéressant et qu'on va faire un épisode 2 sur le casque prostatique. On dit merci au bar, merci Marsha, qui nous accueille pour cette nouvelle édition. Si jamais il y a des gens qui veulent rejoindre des rencontres ou des lives, ça se passe sur le site interweb bit.ly/comment-devenir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Aidez-moi à faire mon intro. Qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire pourquoi il faudrait faire un don au podcast ? Là, les gens vont se dire, mais... Quelqu'un veut faire ma pub ? Ah, t'es trop sympa, Joël. T'es trop chou. C'était pas prévu, hein ?
C'est pas grave. En fait, c'est parce qu'à titre personnel, je pense que c'est important d'avoir le sens de la communauté. Parce que quand on regarde les médias, quand on entend même dans l'espace public, il n'y a personne qui pense à nous ou qui prend notre parti. Et on n'existe pas si on ne se fait pas exister, enfin si on ne s'impose pas nous-mêmes. Quoi. Voilà. Ils ne vont pas nous faire de la place et je pense que c'est important de se soutenir. Voilà. Même si on ne pense pas toujours la même chose, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est important qu'on se serre les coudes parce qu'en face, et quand j'ai en face, c'est toute l'hétéronormativité, ben, ils n'en ont rien à faire de nos problématiques, ils n'en ont rien à faire des enjeux. Donc je pense que soutenir ce podcast, c'est aussi nous soutenir déjà, nous, à titre personnel, et puis les uns les autres.
Eh ben merci, c'est très gentil. J'avais envie qu'on commence avec Guillaume. Alors oui, j'avais fini l'épisode 1 en demandant est-ce qu'il y a des donneurs d'orgasme prostatique. Moi, je suis sûr que ce cliffhanger, comment on dit en français, ce moment de suspense a retenu plein d'auditeurs. Moi, perso, j'écouterai la suite si on finit là-dessus. Je suis très content de ça. Guillaume, tu es un donneur d'orgasme.
Je sais pas,
c'est
mais en fait...
Excuse-moi. Tu avais envie de rebondir.
Oui, ouais. En fait, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Thomas, parce que justement, très récemment, ça m'est arrivé.
Pour les gens qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, en gros, Thomas, il racontait une expérience que lui, il pense être connecté à un plaisir prostatique, en tout cas à un truc la prostate, où en fait, tout son corps s'est comprimé, notamment ses mains, que c'était quand même assez désagréable. C'est à ça que
oui.
Tu réagis.
Mais en fait, moi, je voulais justement rassurer Thomas, parce qu'en fait, c'est arrivé récemment avec un gars que je prenais. Et en fait, d'un coup, il me dit ouais, « j'ai plus de sang dans mes mains, un peu dans mes pieds. » Surtout, c'est deux mains, en fait. Et en fait, il disait ouais, « c'est bon et tout. » Enfin, pour lui, c'était,
donc, il
c'était
était
bon
content.
Signe, en fait. Il était content.
Pouce vers le haut, mais il avait plus de sang dans
voilà.
Les... Ok. Mais ça veut dire quoi ? Il était tout blanc ? Non,
bah, c'est une regardé, impression. Je n'ai pas regardé, comme il n'avait pas l'air inquiet.
Tu regardais où ?
J'aime mieux les aisselles, moi.
Ah ouais ? Ok. Moi je t'écoute. Hein. Moi je trouve que c'est pas mal comme autre sujet. Flemme de l'orgasme prostatique. Non mais en tout cas, il n'était pas inquiété. Et quand il a dit j'ai plus de sang dans les mains ou dans les pieds, c'est ça que t'as dit ?
Oui, voilà, mais
ça veut plutôt
apparemment,
dire,
ça, avait l'air d'être
sensation.
Ça avait l'air d'être la première fois aussi pour lui, parce qu'il avait l'air d'être étonné, mais en même temps, il disait c'est bon signe. Enfin, il était content.
Ah, ok, ok.
Et le lendemain, on l'a refait, ça lui a refait pareil. Et entre les deux, il a pu marcher, se servir de ses mains. Enfin, ça allait quoi.
Ok, et alors, toi, est-ce que tu as l'impression d'avoir petit à petit... Est-ce que toi-même, tu te fais pénétrer ou toi-même, tu as du plaisir ou toi-même, tu te dois...
Ben, c'est rare, en fait.
Ok.
Enfin, ça m'est déjà arrivé, mais ouais, c'est rare. Mais j'ai jamais eu ça.
Cette envie, c'est pas une.
Non, non, j'ai jamais eu les mains. Enfin, j'ai jamais eu ce problème de pas de sang dans les mains, quoi.
Ok. T'as déjà eu ce que tu penses être un orgasme prostatique ?
Ben, en fait, quand t'as posé la question, au début, j'ai répondu, ben, je sais pas, parce qu'en fait, c'est quoi la définition ? Voilà, bon, après tout ce qu'on a dit, je pense que oui, j'ai déjà eu des orgasmes. Et justement, je me disais, c'est pour ça que j'offrais à parler du plaisir anal, parce que moi, s'il n'y a pas le plaisir prostatique, je vois pas trop l'intérêt, en fait, de la pénétration, parce que pour moi, c'est... En fait, la première porte, c'est difficile à passer. Mais justement, si c'est pas pour accéder à la deuxième, je vois pas trop l'intérêt, en fait. Donc, c'est pour ça que au début, je comprenais pas trop.
Okay.
Mais effectivement, voilà, il y en a qui prennent du plaisir que analement. Mais c'est pas trop mon expérience, j'ai l'impression, quand je prends quelqu'un.
Ok.
Parce que j'ai l'impression que moi, j'aime, justement, c'est ça qui me donne du plaisir aussi. C'est quand je vois que l'autre perd ses moyens, qui effectivement, il a plus de sang dans les mains, ou qui pleure, ou qu'il y a quelque chose qui.
Attends, il y a énormément de choses à déplier. Quand il pleure, genre vraiment, il y a des.
Non, mais ça arrive pas à chaque fois, mais je veux dire, c'est pour dire que c'est aussi possible.
C'est
ce
un
que je voulais
beau
dire.
Moment, quoi.
C'est ce pas... que je voulais dire, c'est que l'orgasme prostatique, je pense, ça dépend des gens, il s'exprime de manière différente.
Bien sûr.
Donc, le gars qui a eu les mains, où il est plus de sang dans les mains, il n'a pas pleuré. Mais c'est un autre, une fois qu'il a pleuré. Tu vois, donc
mais de joie, hein, on est d'accord.
Oui, mais c'est même pas que c'est pas des pleurs, c'est plutôt les larmes qui. Enfin, en l'occurrence, c'était les larmes qui coulent toutes seules. C'est les yeux qui mouillaient, quoi.
Ouais, ok.
C'est pas j'ai envie de pleurer, tu vois.
Ouais,
c'est
ouais,
pas
bien
une
sûr,
émotion,
ouais.
En fait.
Ouais,
c'est
bien
mécanique.
Sûr. Ouais, je comprends. Est-ce que toi, au fur et à mesure de ton chemin d'intime ou de sexualité, tu t'es vu faire des choses particulières pour aider tes partenaires à atteindre ces orgasmes ?
En fait, je sais pas parce que c'est pas calculé en amont. C'est pas comme si je me dis tiens, je vais atteindre l'orgasme dans une demi-heure, donc je vais faire ça maintenant. C'est pas à pas quoi. Mais effectivement, moi je suis pas trop dans le genre plan cul direct ou direct prendre quelqu'un. J'aime bien passer beaucoup de temps avant la pénétration.
Okay.
Alors la pénétration pour moi, ça peut arriver après une heure, deux heures de sexe. Enfin, tu vois, c'est où il peut ne pas y avoir pénétration d'ailleurs.
Okay.
Parce que j'y mets pas un enjeu absolu, tu vois.
Ok.
Donc pour moi c'est un peu tout l'ensemble du package quoi.
Bah c'est, ouais, mais c'est
tout ce qu'il y a avant, c'est la psychologie, c'est la personne se sente bien.
Ouais.
C'est...
Mais en fait t'es en train, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'à ton intonation de voix tu dis ça comme si bon bah c'était pas très intéressant, mais c'est très intéressant et je crois que c'est exactement ça c'est ça en fait t'es en train de dire le truc. Tu peux prendre le temps de dire truc que tu dis parce que c'est le truc en fait.
La clé.
Bah ouais mais moi je pense. Toi, tu dis, je ne mets pas de pression sur la pénétration, ça vient ou ça ne vient pas. Il peut y avoir pas mal de temps avant une pénétration, du sexe avant pénétration. C'est quoi, par exemple, que tu aimes faire ?
Ben, ça peut être tout, hein, se sucer. Moi, j'aime bien faire des anulingus, toucher. Moi, j'aime bien aussi prendre la personne une fois que j'ai mis jusqu'à trois doigts, pas avant, quoi. Tu vois, histoire d'être sûr que la personne, elle est prête, quoi.
Ok.
Enfin, sauf si le gars, il me dit...
Ça cliquetit.
Sauf si le gars, il me dit « j'aime pas les doigts », il y en a qui aiment pas. Ou sauf si le gars me dit « voilà, qui veut tout de suite », ça me fait un peu chier d'ailleurs. J'aime bien quand ça prend un peu de temps, mais...
Ouais.
Voilà, c'est vraiment... voilà. Et puis j'aime bien aller au restaurant avant, ou manger, ou boire un verre. Enfin, il y a tout un ensemble.
Ouais.
Voilà.
Qui est le terrain psychologique, quoi. C'est se sentir bien, je crois que quelqu'un le disait. Quand tu disais « moi, j'aime bien prendre quelqu'un si je peux mettre trois doigts », c'est important pour toi... Parce que tu as vu que c'est comme ça que la personne avait plus de plaisir ou parce que tu t'inquiètes de lui faire du mal ?
Oui, c'est plutôt ça.
Faire mal. C'est la deuxième.
Ouais.
Ok. Plein de moments de caresses, de toucher, de machin selon les goûts, prendre le temps. Et après, dans ta pénétration, tu as l'impression de. Il y a des positions qui sont plus favorables.
Non, ça c'est plutôt en fonction de la. Enfin, si moi il y a des positions que j'aime pas trop, genre quand le mec il est. Quand moi je suis allongé sur le dos, le mec est sur moi, je sens pas trop. Après, en fait, pour moi, ce qui compte au début, souvent j'aime bien que la. Enfin, commencer par une position où le mec est vraiment à l'aise en fait. Si lui c'est comme ça qu'il est bien, qu'il me dit ah, c'est moi qui gère, c'est moi qui me mets sur toi Et des fois, quand quelqu'un qui sait pas trop ou qui est pas trop habitué, justement, il aime bien pouvoir gérer lui-même. Et alors, on fait cette position, même si moi, voilà. Puis après, on peut changer. Ouais. Voilà. Mais donc, il n'y a pas une position que moi. Je pense pas qu'il y ait une position vraiment qui soit. Dire dédié pour atteindre l'orgasme.
Ouais, mais ce que tu as dit, ça c'est important. En fait, tu checks avec ton partenaire par des mots ou par du ressenti que le partenaire que tu pénètres est dans la meilleure position confortable.
Oui.
Tu reviens quand même souvent au côté psy, d'être détendu, d'être bien. Et,
en fait, c'est ce que je disais quand on parlait à trois. En fait, moi, mon plaisir en tant qu'actif, c'est pas le plaisir sur la bite. C'est un peu ce que je disais Jeff d'ailleurs. Au bout d'un moment, on sent plus en fait. Enfin, c'est pas vraiment une sensation. Ouais, le plaisir sur la bite, il est pas ouf, quoi. C'est surtout le...
Lorsque tu pénètres, ouais.
Mais c'est surtout le fait de... Moi, je prends du plaisir par le fait que je vois l'autre prendre du plaisir, en fait. Donc, quelque part, par procuration, j'ai un orgasme prostatique parce que lui en a. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, qui... Ouais. C'est ça, mon guide, en fait.
Ok. Et t'as l'impression que... donc il y a tout un temps de kiff et de jeu et de sexualité diverse, puis à un moment donné, s'il y a l'envie, il peut y avoir une pénétration, et t'as l'impression que cette pénétration t'as identifié un temps, genre c'est court, parce que là t'as dit ça peut être plusieurs heures avant la pénétration. Est-ce que la pénétration, pareil, tu peux faire plusieurs heures?
Oh non.
Ou non,
plusieurs heures de pénétration à l'intérieur?
Oui, j'ai posé la question, mais je connais un peu la réponse.
Enfin, en fait, ça m'est déjà arrivé de faire plusieurs heures de sexe, mais vraiment de longues heures de sexe. Mais en pénétration pure, ça revient plusieurs fois dans ces longues heures. Mais la pénétration pure, je sais rien. Moi, c'est un quart d'heure, je dirais. Une demi-heure, maxi.
Mais je trouve ça...
J'en sais rien.
Mais
maxi, une demi-heure, à mon avis. Ouais.
Moi, je suis...
J'ai pas compté, en fait.
Ouais, parce que peut-être qu'on a des images de... il faudrait que ça dure tant de temps. En gros, genre, faut que ça dure pour que...
Après, qu'est-ce que t'appelles la pénétration? Parce que est-ce que les doigts, tu les comptes dans la pénétration?
Oui.
Parce que normalement, oui.
Ouais, bien sûr.
À ce moment-là, oui, c'est beaucoup plus long, ouais.
Ouais. Oui, tu doigtes énormément.
Ben, je sais pas, mais ça dépend des gens aussi. Si...
Tu nous feras... Alors, il y avait l'épisode précédent, quelqu'un est reparti avec un devoir à la maison. Toi, j'aimerais bien genre un peu du chronométrage pour que je comprenne
un peu.
En fait,
moi, je remarque le début et la fin du sexe. Donc, voilà, le temps global.
Ouais, bien sûr.
Mais le temps de pénétration, je t'avoue que j'ai jamais regardé.
Guillaume, tu portes d'ailleurs un très joli prénom. Si tu me posais les questions que je te pose, je te dis regarder. Mais j'ai aucune idée. Genre, je suis pas là en train de chronométrer. Tu as très bien répondu. Est-ce que Denis, tu veux dire quelque chose avant qu'on passe à Jeff? Et j'ai perdu mon cahier. Quelqu'un m'a volé mon cahier. Il est derrière mon ordinateur. Voilà. Jeff, Denis.
Oui.
Denis.
Là, ce qui est intéressant dans le témoignage de Guillaume, c'est le côté de se mettre dans de bonnes conditions, de se préparer. Un orgasme est un réflexe. Et donc, un réflexe, on peut l'atteindre si on est détendu. Si on est dans de bonnes conditions, et évidemment, si la personne qui va être pénétrée a des peurs, a des douleurs, ça va créer forcément une contraction de l'anus et encore plus de douleurs, etc., etc. Donc là, la démarche de Guillaume est intéressante parce qu'il y a vraiment du préliminaire pour mettre la personne à l'aise, pour qu'elle puisse se détendre, se relâcher, et puis aussi commencer à travailler la dilatation de l'anus. C'est
Parce que la prostate est à 6 cm.
Un peu moins.
Un peu moins. 4 cm.
On est entre 4 et 5, à peu près, entre 3 et 5.
Ok. Parce que avant que vous veniez, Yelem, qui aide à co-organiser très sympathiquement cet événement, vous envoyez un petit texto en mode « N'oublie pas, c'est ce samedi !» Et il vous a mis le lien, normalement, de l'épisode qui est paru, je ne sais plus quand, qui s'appelle « La technique de l'horloge magique pour se dilater ». Clairement, c'est un titre que j'ai eu à 5h du matin. Est-ce que quelqu'un l'a écouté et a essayé? Donc, il y a des oui. Qui a essayé? On a trois mains levées. Et ma question, c'est si je cherche à aller sur le chemin de la prostatique, moi, j'avais trouvé que cette technique de l'horloge pour se dilater est chouette parce qu'au lieu de tout de suite aller foutre la pression sur la petite boule à 4 cm, tu commences par te mettre bien, etc. Et c'est ce que tu dis un peu.
Oui, l'anus, encore une fois, est une zone très innervée. les sphincters ont besoin d'être travaillés un petit peu et stimuler la prostate. Finalement, on ne stimule pas que la prostate. On va stimuler tout l'anus qui vient avec. Donc, c'est important effectivement de dérotiser aussi un anus. Il y a des personnes qui n'ont jamais été pénétrées ou qui ne veulent pas être pénétrées, qui peuvent avoir peur d'être pénétrées. Et la première chose, c'est de juste se dire que l'anus va être une zone de plaisir et non pas de douleur. Mmh. Et avant même de tester la technique de l'horloge, ce qui peut être intéressant, c'est dans une masturbation, d'apprendre juste à stimuler par de la caresse l'anus. Avec un peu de lubrifiant, l'idée c'est pas de rentrer quelque chose.
Tu rentres pas du tout. Ouais, la technique de l'horloge, c'est une phalange. Ou une demi. Là, tu restes dehors.
Ouais, juste une stimulation externe. Et sentir qu'au moment où il va y avoir un orgasme éjaculatoire, on va peut-être sentir l'anus qui va se contracter, qui va quand même déjà créer des premières sensations. Et là, l'avantage, c'est qu'on va associer finalement ces sensations de l'anus à un orgasme. Et le cerveau va se dire finalement, c'est chouette l'anus. Et après, on arrive à un deuxième temps où là, on va pouvoir du coup travailler ta technique de l'horloge pour apprendre à ouvrir un petit peu plus et faciliter le chemin.
Jeff ?
Oui.
Tu voulais dire un petit truc ?
Sur l'épisode précédent, du coup, on parlait de se découvrir, donc ça fait bien le lien avec ce que tu viens de dire, Denis. Donc se découvrir l'anus ou la prostate. Et moi, je me suis rendu compte que dans ma construction d'actif plus que de passif, je vais jamais chercher à l'intérieur de moi. J'ai un organe qui est externe. Et je suis plutôt dans la stimulation de ces organes, enfin de cet organe-là,
okay.
Notamment, enfin que soit téton, pénis, etc. Et en commençant à écouter le podcast, je me suis posé plein de questions de où je devais aller chercher, où je pouvais aller chercher à minima, et pourquoi j'allais pas chercher à certains endroits.
C'est quoi le début de tes réponses? Pourquoi?
Parce qu'en fait, je suis navré de dire ça. Je suis vraiment navré de dire ça. Un homme, ça se fait pas pénétrer. Et je suis navré, mais je le dis avec la tendresse que j'ai pour tous les hommes que j'ai pénétrés. Mais du coup, je suis en pleine déconstruction à plein d'égards et en questionnement. Et je me suis dit, mais t'es un peu homophobe dans l'affaire. Hein. Et voilà, donc je pense que c'est aussi le lieu de ça, en fait. D'aller se chercher du plaisir prostatique ou du plaisir anal, tout simplement, c'est être à l'aise avec ce qu'on est ou ce qu'on pourrait être, donc potentiellement un homme pénétré pour ma part. Et ça, je n'ai pas encore totalement. Je ne suis pas totalement à l'aise avec encore. Voilà.
Marc, avant que tu interviennes, est-ce que les personnes qui ont levé la main et qui ont tenté la technique de l'horloge, est-ce qu'on la conseille à Jeff ? Justement pour alors oui, j'aime bien les gens qui n'ont pas encore participé. Si vous aviez envie, toi Julien, t'as tenté la technique?
Oui,
merci de le dire.
Ben voilà, j'ai tenté avant de venir, j'ai fait mes homeworks,
tes devoirs. Très bien, je te donne une bonne image.
Merci.
Ma maîtresse, elle me donnait des bonnes idées.
Moi aussi j'en avais
des
plein,
des images et tout. Ouais.
J'étais
des
un vrai fou.
Ok, qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on le conseille à Jeff? Toi, t'en as pensé quoi de cette technique?
Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est que oui, elle est très utile si on veut se dilater, mais l'intérêt de cette technique, et je pense que tu l'as dit aussi dans l'épisode, c'est vraiment de s'occuper de soi et de se découvrir aussi et de créer le moment, d'installer le moment, comme on disait tout à l'heure, parce que ça permet de faire une pause et d'être prêt à accepter la suite. Voilà, c'est un peu ça, pour ça que je la conseillerais à Jeff. C'est plus pour je suis détendu et tout se passera bien. Et en plus, j'ai pris un moment pour moi juste avant pour accepter éventuellement ce qui arrive derrière.
C'est un épisode de 5 minutes où je décris le truc. Ça a été conseillé par des auditeurs sur le Discord qui ont validé. Mais bon, en fait, si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est trop relou parce que tu ne vas pas t'interrompre pour aller écouter l'autre. Donc en deux secondes, c'est tu insères une phalange ou une demi-phalange en respirant et en prenant 20 secondes ou 30 secondes aux quatre coins de l'horloge, tu vois. Tu commences en haut, tu respires. Jeff est en train de se marrer. Jeff, il y a du manquage de respect en direct de la technique de l'horloge, qui est une technique du docteur Carlton. On le rend don à César, qui est procto à San Diego. Ça rime. Donc ouais, en haut, 20 à 30 secondes, tu respires. Pourquoi ça te fait marrer, Jeff? Vas-y, donne-lui le micro.
Vas-y, Jeff,
Mais non, mais En fait, je m'imagine le faire. Je l'ai écouté, cette petite capsule, elle dure 5 minutes, donc je l'ai écouté. Et je me suis dit, mais à aucun moment, j'allais me poser pour faire ça. Mais
ouais. Vraiment,
Et pourtant, il y a plein de choses que je tenterais, parce que c'est trop... ça devient trop intellectuel pour moi d'aller chercher mon anus avec une technique de l'horloge en plus. Je vois une horloge quoi. On dit enfin dans tout le truc c'est on doit prendre du temps pour soi et le premier truc c'est compter le temps. En fait, c'est je sais pas c'est peut-être le nom qui n'est pas le plus approprié pour moi, mais en fait ça me rappelle que je dois le faire entre un temps T et un temps T.
Il
y a un truc psychologique qui ne fonctionne pas. Donc...
Et est-ce que tu peux t'imaginer, est-ce que tu es à l'aise de dire avec qui tu as des rapports sexuels?
Avec mon copain et d'autres personnes dans la nature.
Ok, dans la nature. Si tu t'imagines un partenaire que tu kiffes, à qui tu demandes de ne pas aller plus loin qu'une demi-phalange?
Oui, la fin de la question.
C'est, c'est ça. Et est-ce que tu te verrais du coup essayer?
Ah oui, mais c'est déjà arrivé. Mais de là à ce que je prenne vraiment du plaisir, il y a un travail qui est tellement conséquent que... c'est encore une histoire de temps, en fait. À chaque fois, c'est...
Ouais, je comprends. Denis, je ne sais pas si Julien t'a dit ce que tu voulais dire. Ouais, Denis.
Mais du coup, moi, je propose de rebaptiser la technique de la boussole.
Ah! Nord-Ouest Est, très bon, excellent.
Et puis c'est avec une boussole qu'on part à exploration.
Ça sera by Denis, from Paris.
Si je peux peut-être aller un peu plus loin sur tes sensations, Jeff, moi je t'inviterais à le faire seul et à le faire en te masturbant pour avoir une double excitation. Si tu stimules l'anus alors que t'es pas franchement excité, que tu le fais pour le faire, il n'y aura rien. Ça sera des sensations... Bon, alors que si tu te masturbes en même temps, tu vas créer aussi du désir, tu vas créer des sensations agréables et tu vas pouvoir associer les deux finalement.
Et je rajouterai lubrifiant, soit tu craches, soit... Mais genre, les gens qui pensent... Enfin, bon, non, pardon, on dit pas les gens et tout, mais moi, sans lubrifiant, c'est pas possible, quoi. Et vraiment, ça transforme ta sensation. Après, si jamais t'essayes sans lubrifiant et que t'es content, c'est trop cool, hein, chacun son corps. Et... Mais je trouve que... pour moi, c'est une condition, quoi. C'est essentiel.
Est-ce qu'on pourrait dire où est la prostate? Parce que depuis tout à l'heure, on en parle, mais on n'a pas vraiment parlé de la prostate.
Juste à côté du nez. Prochaine question. Ouais, vas-y, bien sûr.
Non, parce que depuis tout à l'heure, on parle de centimètres, on parle de phalanges. Autant aussi donner un petit guide pour ceux qui ont dépassé la technique de la boussole, pour le coup. Et qui veulent aller plus loin. La prostate, elle est donc à entre 3 et 5, 6 cm à l'intérieur. Donc effectivement, ça correspond à peu près à deux phalanges et demi. Et il faut savoir qu'elle est du côté ventre. Donc finalement...
Côté
ventre, elle n'est pas côté dos. Elle est côté ventre.
Donc si je suis allongé sur le dos, je me touche vers le haut à 4
oui,
cm.
Exactement.
Pour chercher la noisette.
Et ça sera plus qu'une noisette, c'est une châtaigne.
C'est une banane. Une châtaigne, ah oui, est-ce que
c'est
je sais la taille
gros.
D'une châtaigne?
Elle est un peu plus grosse, ouais.
Ok.
Donc, côté ventre, et c'est important surtout pour les personnes qui veulent donner du plaisir prostatique.
Oui.
C'est-à-dire que c'est important de savoir dans quel sens on va venir stimuler. Et il y a aussi, du coup, un rapport avec les orientations des pénis. Il y a des mecs qui vont très facilement donner des orgasmes prostatiques avec leur pénis en fonction de la position et de la courbure du pénis. Donc, si par exemple on a un pénis qui monte plutôt vers le haut, il y a plus de chances qu'on vienne stimuler la prostate du partenaire si lui il est sur le dos, les jambes en l'air. Alors que si on part vers l'avant, volte-face.
Volte-face. J'ai un auditeur qui demande, est-il possible que la prostate, pour une raison ou une autre, ne puisse pas ressentir la stimulation et provoquer le plaisir? Tu vois, est-ce que tous les hommes sont... Ou en tout cas, tous les porteurs de prostate sont... égaux, ouais, merci. Ou est-ce que non?
Il y a deux questions dans la question. Donc, tout le monde va avoir des sensations. La prostate est innervée, il va y avoir des sensations, c'est obligatoire. La deuxième partie de la question, c'était pour provoquer du plaisir. Provoquer du plaisir, ça va être quelle notion est-ce qu'on va donner à ces sensations? Est-ce qu'on va les aimer? Est-ce qu'on va pas les aimer? Est-ce qu'on va peut-être les associer à du plaisir? Ça aussi, hein, ça dépend de comment se passe l'acte, comment se passe l'interaction avec la personne. Donc finalement, tout le monde peut avoir des sensations, mais tout le monde ne peut pas forcément en tirer du plaisir.
Du plaisir, ouais. Thomas le disait bien, et moi je suis plutôt team Thomas. Hein. Si tu me stimules la prostate, je suis pas sûr. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse. Mais je pense qu'en fait, j'ai besoin de Guillaume. Non, mais tu vois, en fait, ce que Guillaume a dit en mode, on prend vraiment plein le temps et il y a une montée de désir. En fait, je pense que c'est ça qui me manque pour vraiment pouvoir cultiver le plaisir prostatique. Parce que sinon, moi, tout seul, j'ai un peu du mal, quoi. On a Pierre, la police, Pierre et Red. Pierre...
Ok, donc si je comprends bien, le plaisir prostatique, ça s'apprend par l'entraînement, par l'auto-apprentissage d'abord.
Dit-il en pointant du doigt.
C'est ce que je comprends en tout cas, exactement.
Ouais, ouais.
Voilà, joignons le geste au propos. Voilà, donc ça s'apprend, ça s'auto-apprend. Et quand on estime qu'on a auto-appris, il faut tomber sur le partenaire qui saura reproduire cette source qu'on a auto-apprise.
Toi, t'en es où ? T'es à l'aise de dire
Moi, je peux dire que je... Quand tu as posé la question au début du podcast, si on avait déjà eu ou pas l'orgasme prostatique, je ne savais pas te dire oui ou non. L'orgasme anal, enfin, le plaisir anal, bien entendu, oui. Est-ce que c'était un orgasme prostatique ? Je ne sais pas le dire. Le plaisir anal peut être plus intense avec l'un ou avec l'autre.
Okay.
Est-ce que c'était pour autant un orgasme prostatique ?
Tu sais pas.
Je sais pas le dire.
Et de tout ce que tu as entendu aujourd'hui, oui. Ça t'a donné envie de quoi ? Pour ton intime à toi ?
Eh bien, de le rencontrer, en tout cas. Voilà.
Ok. Guillaume veut faire un complément.
Tu me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je fais avant, etc. Mais effectivement, j'ai pas dit pendant que ce qu'on appelle les préliminaires, j'aime pas trop ce mot, mais bon, vous l'avez employé, que je stimule la prostate justement. Tu sais, quand je te dis je mets les doigts, etc. Enfin, quand je mets les doigts avant, je vais justement chercher la prostate. Donc peut-être qu'aussi dans le cheminement, j'ai quand même stimulé avant quoi. Mm-hmm. Et j'essaye de sentir, voilà, si la personne est réceptive ou pas.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Merci. Tu seras notre chef prostate. Red.
Oula.
Denis, tu veux dire un truc avant Red ?
Oui, oui.
De toute façon, le micro met 1000 ans à venir.
Parce que Pierre a quand même posé la question en voulant faire une synthèse. Ça peut être un auto-apprentissage. Ça peut être aussi un apprentissage avec un autre. Il faut avoir confiance. Ça, c'est important, pouvoir communiquer. Et encore une fois, c'est oui, une découverte, un apprentissage, mais c'est pas forcément une fin en soi non plus. C'est ça, on l'a dit tout à l'heure. Ce que rajoutait Guillaume, la prostate aussi peut mettre du temps à provoquer du plaisir. C'est-à-dire que vous pouvez tenter 3-4 fois ne jamais avoir un plaisir prostatique ou un orgasme prostatique, et des fois le faire en quelques minutes, paf, ça va arriver. Et d'autres fois ça va durer des dizaines de minutes voire plus, et ça viendra pas spécialement. C'est parce que c'est hyper vaporeux comme sensation, effectivement. Et plus la pratique s'installe, plus les sensations vont être connues et reconnues, comme ce qu'on disait sur la masturbation finalement. Donc c'est une conquête finalement qui se fait progressivement. Ouais.
Red.
En fait, moi j'ai une petite interrogation qui va peut-être nous renvoyer à l'épisode précédent, mais je m'interroge sur la définition de l'orgasme et surtout sur le caractère évolutif de l'orgasme, c'est-à-dire que est-ce que déjà c'est quelque chose de commun, la définition, c'est-à-dire qui est partagée un petit peu, ou c'est quelque chose de personnel chez chacun ? Je pense que le dénominateur commun, c'est le plaisir, mais l'orgasme en lui, est-ce que c'est pas quelque chose de plus personnel et surtout évolutif ? Concrètement, moi, au début, en fait, je pensais en ayant à avoir des orgasmes, en étant, comme on appelle, je sais pas, homme fontaine. L'envie d'uriner en fait quand je suis passif, et après c'est devenu quand j'arrive à jouir mais vraiment sans me toucher. Et aujourd'hui ma définition de l'orgasme, c'est vraiment un séisme dans l'épicentre et vraiment au niveau de la partie de l'anus.
Okay.
Avec des ondes qui se répartissent dans tout le corps et des sensations à la fois grossières et subtiles.
et surtout la durée, c'est-à-dire que l'acte il peut se terminer, le lendemain je me réveille et je suis toujours dans cet état en fait de flottement. Ça n'a rien à voir avec les produits.
Eh ben dis donc.
Juste pour préciser, mais
c'est très convaincant. Hein.
Et donc je me dis, est-ce que c'est vraiment quelque chose que elle évolue aussi avec le temps et alors, c'est de la définition.
Toi, ce que tu dis, c'est les différents moments de ton chemin intime, ils sont séparés par combien d'années?
C'est quelques années quand même.
C'est sur 10 ans, sur les 10 dernières années.
Oui, voilà,
au dire, début, ouais. Quand on te pénétrait ou on te doigtait,
On me pénétrait.
On te pénétrait, ouais. T'avais cette envie d'uriner.
Exactement.
Petit à petit, ça s'est arrêté. Tu sais pourquoi ça s'est arrêté?
Je sais pas, ce que ça devrait évoluer vers quelque chose d'autre.
Ok. T'as changé de partenaire?
Changer de partenaire, ou ouais, avec d'autres partenaires, en dehors de la relation de couple. Mais surtout, en fait, c'est plutôt c'est-à-dire que pendant un temps, ça procurait certaines sensations, c'est-à-dire c'était ma définition à moi,
ouais.
Jusqu'au moment où j'en découvre une nouvelle.
Et tu sais, le point de bascule, c'est juste par hasard, autre fois tu te fais pénétrer et là, pouf, ouais. Tu ressens une nouvelle chose et tu ne sais pas l'expliquer.
Exactement. En fait, je pense que la chose qui se répète, c'est un peu le caractère exceptionnel et intense du moment, c'est-à-dire et des sensations. C'est pour ça que moi je me disais c'était un orgasme, parce que c'était tellement exceptionnel et intense, et après ça s'est répété en faisant d'autres pratiques comme je viens de, ou en l'expérimentant différemment.
Tu peux mettre des mots sur ces différences d'expérimentation?
C'est ça en fait, c'est-à-dire que juste le fait de uriner sans en avoir envie, c'est-à-dire être poussé à uriner, pour moi c'était en fait ça procurait vraiment un plaisir intense.
Ok.
Et après c'est le jour où je suis arrivé à jouir sans me toucher, pour moi c'était un plaisir intense.
Ouais.
Et après
mais tu sais pas ce qui s'est passé de différent à part juste le temps qui est passé.
Le partenaire.
Ok.
Le partenaire, je pense des skills différents. Et
ouais.
Voilà, et c'est ça qui emmène à découvrir quelque chose de différent. Ouais.
Dans ce que Guillaume décrivait, tout ce qu'il a décrit, est-ce que tu...
Je pense maintenant, avec l'expérience, je sais en tout cas que le plus important, ça m'appartient, c'est l'alchimie. Et je pense qu'il y a une bonne connexion, une bonne alchimie, on est mieux, bien disposé à arriver à quelque chose de plus orgasmique.
Ouais, ok. Merci. Donc du coup... j'ai envie de comprendre, toi aujourd'hui, quand tu as ces expériences très puissantes, c'est à chacun de tes rapports, si tu le souhaites.
Non.
Tu peux mettre proche de ta bouche.
Non, c'est pas à chacun de mes rapports. Je veux dire, si c'est à chacun de ses rapports, je sais pas. Ça deviendra plus exceptionnel, ça deviendra plus en fait orgasmique pour moi, en fait, pour que je puisse l'identifier.
Donc tu as des rapports sexuels sans orgasme prostatique.
Oui, exactement.
Qui correspondent à plutôt 95% de ta sexualité. Et genre, une fois par mois.
Le pourcentage exact, je ne l'ai pas.
C'est bien dommage.
Quand je vis ce moment-là, je l'identifie, et surtout en fait, quand je sais que ça perdure dans le temps.
Ouais, c'est cette puissance-là.
Là, exactement. Et là, je me dis, c'était vraiment un orgasme.
Est-ce que ce moment exceptionnel, c'est toi qui peux, tu peux avoir un pouvoir dessus, c'est-à-dire c'est toi qui peux le générer? Donc avec le même partenaire, parfois tu as des rapports sexuels comme ça, exceptionnels. Et t'as compris comment les faire advenir ou pas?
Je peux te dire que je suis plutôt au début de cette nouvelle phase d'orgasmique. Donc, par exemple, ça m'est arrivé deux fois avec le même partenaire. Mais j'ai pas forcément un recul pour établir en fait une...
Comprendre pourquoi. Tes devoirs à la maison. Parce que là, aujourd'hui, t'es à l'aise de dire si t'es en couple ou en...
Ah, je suis en couple, exactement.
Et en couple ouvert.
Ouvert, exactement.
Et du coup, et ces orgasmes prostatiques, ils arrivent avec différentes personnes et ton copain aussi?
Oui.
Ok.
Exactement.
Merci. Denis?
Ce qui est intéressant avec l'orgasme prostatique aussi, c'est qu'il est beaucoup plus diffus, beaucoup plus long, beaucoup plus intense. Et surtout, on peut en avoir plusieurs. On peut les enchaîner. Donc c'est autant avec un orgasme éjaculatoire, on va avoir la phase réfractaire qui va nous faire retomber et on va avoir besoin un petit peu de temps pour recharger les batteries, autant avec l'orgasme prostatique, on peut continuer à faire une stimulation et enchaîner les orgasmes. Donc ça c'est une des particularités, et ce côté très diffus sur du long terme aussi. La définition d'un orgasme, c'est vraiment cette décharge du plaisir. Des fois, même d'un point de vue éjaculatoire, on peut éjaculer sans avoir d'orgasme. C'est pas une éjaculation qui est forcément signe d'orgasme. L'orgasme, ça va être vraiment un phénomène un peu hormonal, hein. On va avoir tout un plateau avec une sécrétion hormonale jusqu'au moment où on va avoir un pic d'adrénaline qui va venir intervenir. Et c'est ça finalement qui va créer toute la chaîne du plaisir. Et donc d'un point de vue très définition, c'est vraiment ce pic qui arrive, qui va être synonyme d'orgasme. Et tout comme on peut avoir aussi des orgasmes très différents avec un rapport plutôt tourné vers l'éjaculatoire, il y aura des sensations, des fois on peut avoir un orgasme, on va avoir la chair de poule, et puis une fois d'après ça va être un orgasme avec de la chaleur, l'orgasme avec des pensées qui vont arriver. Ça dépend vraiment du partenaire et du lien qui est créé, mais aussi des stimulations qui ont été faites. Donc définition d'un orgasme, c'est vraiment ce pic, cette décharge, et effectivement après ça peut prendre des formes différentes.
Est-ce qu'on a d'autres donneurs qui peuvent nous donner leur histoire, leur vécu, donc là, bon après si vous avez une autre bafouille à dire, vous la dites, hein, mais des gens qui ont, il y avait des gens qui ont levé la main tout à l'heure, qui ont donné des orgasmes. Victor, je te regarde. Non, Marc, toi il y a des gens qui lèvent la main et puis qui les délèvent. Moi, en tout cas, je veux le truc de raid. Hein. Ça, c'est un objectif nouveau dans ma vie. Marc.
Donc, oui, effectivement, je vais rejoindre Guillaume sur certains points. Je pense
Guillaume, moi ou maître prostate.
Ouais.
Chef prostate.
Parce que je pense que je suis un peu comme lui dans l'approche. Moi, je dis que le premier sexe chez l'homme, c'est son cerveau. Donc si le cerveau est d'accord, tous les sphincters y s'ouvrent. Effectivement, l'idée c'est de mettre l'autre à l'aise. Et c'est vrai que je suis content à chaque fois que je donne du plaisir à l'autre et de me rendre compte qu'il a un vrai plaisir prostatique ou un plaisir tout court.
Est-ce que tu peux te souvenir de la dernière fois où tu as compris que ton partenaire avait vécu un orgasme prostatique? Est-ce que tu peux la retrouver dans ta tête?
Oui, parce qu'en fait, ça dure au moins 2 heures, 2 heures et demie. C'était il y a 2 mois.
C'était, ouais. Okay. Voilà.
Moi, ça dure jusqu'à 2h, 2h30. Par contre, moi, je regarde la montre. Parce que j'aime bien savoir combien de temps ça dure. Parce qu'en fait, tous les passifs ne durent pas forcément longtemps. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas endurer, entre guillemets,
Une pénétration. Juste pour le contexte, c'est quelqu'un avec qui tu avais déjà eu des rapports sexuels.
Oui, c'était un régulier. Oui.
C'est un régulier. Toi, aujourd'hui, tu es dans quelle situation maritale?
Ah non, moi, je suis célibataire.
Tu es célibataire. Très bien. Et donc, tu as des rapports sexuels avec les gens que tu veux?
Voilà, c'est ça, avec des réguliers ou alors des rencontres
super.
Comme ça.
C'était la combientième fois que vous aviez un moment?
C'était la troisième fois.
Troisième. Ok. Et ça faisait combien de temps que vous connaissiez?
Ça fait 2 ans.
Ok.
Bon, on se voit pas régulièrement, si c'était la question.
Par exemple. En fait, j'essaie de comprendre, parce qu'à mon avis, moi, mon intuition, c'est que l'orgasme prostatique, il vient dans certaines conditions. C'est pour ça que je pose des questions
spécifiques.
Oui, moi,
je pense qu'il vient d'abord le fait de connaître l'autre. On se sent plus à l'aise et donc il y a une forme de sécurité. Ensuite, il y a le lieu, c'est-à-dire qu'il faut que le lieu soit propice pour que l'autre personne puisse se lâcher.
Ah ouais, vous étiez où?
D'ailleurs, moi, dans mon appartement, c'est chez moi. Moi, mon appartement, on dirait un peu un appartement témoin. C'est-à-dire qu'il est décoré de telle sorte que les gens, quand ils rentrent, ils veulent rester. C'est-à-dire que...
Tu es donc tueur en série en semaine.
Comment quoi?
Tu es tueur en série en semaine.
Un killer de boules, c'est ça?
C'est ça.
Non, plus sérieusement, oui, en fait, mon appartement, il est pensé pour moi, mais il est pensé beaucoup pour l'autre. Parce que dans ma vie personnelle, je reçois beaucoup mes amis à dîner. Je suis quelqu'un, puis je travaille dans la relation client. Donc j'ai un rapport à l'autre. Je pense au plaisir de l'autre, à aider l'autre, dans mon métier déjà. Donc déjà, c'est comme ça dans ma nature. Je suis assez hédoniste. Et donc du coup, à titre personnel, sur faire l'amour, qui pour moi est une bulle particulière, le plaisir, il est vraiment tourné sur l'autre. On parle beaucoup du quotient intellectuel, mais on parle pas beaucoup du quotient émotionnel. et le quotient émotionnel, tu n'as pas besoin d'un bac plus 5 pour apprendre à connaître l'autre et à écouter ses désirs. Et je dirais que quand on fait l'amour, le quotient émotionnel, bien sûr, il prévaut sur le quotient intellectuel. Et quand on a un quotient émotionnel développé, on peut plus être à l'écoute de l'autre et déjà le mettre à l'aise. Déjà, tu rentres dans un endroit...
Comment tu sais que lui, il sera à l'aise chez toi? Parce qu'on pourrait penser le contraire.
Parce que déjà, quand il rentre, l'appartement est décoré et il est installé de telle sorte qu'il est à l'aise tout de suite.
Ok.
Parce qu'il va y avoir une lumière tamisée, parce que dans ma chambre, j'ai une télé. Donc, il va y avoir une playlist avec une musique plutôt sympa qui va, le côté, en fait, au niveau du cerveau, hein, mettre la personne à l'aise, tout simplement.
Mais ça, il te l'a dit. Il t'a dit, je suis content d'aller chez toi.
Ah bah oui, parce que quand on s'en va...
Parce que je pense que moi, lâcher prise, je suis plus à l'aise, soit justement pas chez moi, dans un autre pays, parce que psychologiquement, je me dis, bon, je laisse ça là et puis après, je rentrerai. Ou au contraire, chez moi, dans ma bulle. C'est pour ça que je pose ces questions.
Alors, je suis en terrain conquis, entre guillemets, parce que je suis chez moi. Mais le fait de connaître la personne, ça aide, je pense, l'autre à se mettre à l'aise.
Ouais.
Et vraiment, après, il y a des personnes qui aiment le faire à l'extérieur, de manière furtive, dans un bois, sur un lieu de drague, etc. Mais en tout cas, les personnes en tout cas, qui privilégient un intérieur, je pense qu'un appartement qui va avoir une décoration, une musique, une odeur, parce que du coup, moi aussi,
setup, il y a
tout l'aspect olfactif. C'est-à-dire que moi, chez moi, j'ai des diffuseurs, en fait... d'odeurs qui font que quand on rentre dans l'appartement, déjà d'un point de vue olfactif, moi ça j'ai travaillé chez Sephora quand j'étais étudiant, donc c'est vrai que j'aime bien le côté olfactif des choses.
Okay.
Pour on rentre, ça sent bon, voilà.
Ouais.
Ensuite on voit une décoration qui est appropriée,
tu
on
le mets bien,
une lumière tamisée,
parce que Guillaume disait un peu ça, toi. Dans les étapes ou dans les clés que Guillaume partageait, est-ce que tu veux en rajouter? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu es d'accord? Et est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter?
Oui, je suis d'accord avec lui sur le côté. Donc ça, je parlais de l'environnement. Et après, effectivement, le quotient émotionnel, mettre l'autre à l'aise par les préliminaires. Doigt, pas doigt, si l'autre en veut ou on veut pas. Effectivement, stimuler la prostate par le doigté, si jamais la personne le veut ou pas. Et je suis colmie, j'adore effectivement l'anulingus. Je trouve que dans les préliminaires, c'est quelque chose qui met particulièrement la personne passive à l'aise et qui l'aide à ouvrir ses chakras, entre guillemets, avant d'accepter une pénétration. Après, en termes de position, il y a des personnes qui vont jouir en levrette, d'autres plutôt sur le dos, d'autres sur le côté.
Cette dernière fois, il a joui, du coup?
Sur le côté.
Moi,
je fais beaucoup de positions.
En cuillère.
Je termine par la position que la personne préfère. Et pour revenir sur ce que Guillaume disait, je demande à l'autre quelle est la position qu'il préfère au départ. Donc, on commence par cette position. Par contre, je préviens qu'on va faire plusieurs positions. On ne va pas faire que celle-là.
Programme.
Et ensuite, on termine par celle qu'il aime bien.
Voilà. Toi, t'en es où par rapport à toi? T'as déjà... Ça fait réagir. T'as déjà ressenti l'orgasme prostatique? Tu te l'es fait ressentir?
Uniquement dans l'onanisme, surtout. J'ai dû le ressentir une fois en étant passif avec un mec il y a, je sais pas, 5 ans. Mais moi, c'est pas spécialement mon kiff de... Ou alors, je suis pas fermé, hein, parce que c'est vrai que tout à l'heure, Jeff, il disait un homme... Je pense que la publicité, les marques communiquent beaucoup en mettant l'homme doit pas pleurer, viril, machin, c'est des conneries. Je pense qu'en fait, au contraire, moi-même, je parle beaucoup de sexualité avec mes amis hétéros. Et j'ai beaucoup d'amis hétéros qui se font bouffer le cul, qui se font doigter par leur nana, qui se masturbent dans leur salle de bain quand ils sont seuls. Et je les encourage à continuer de le faire. Parce que c'est très bien. Et j'encourage aussi mes copines hétérosexuelles à s'ouvrir aussi. Parce que les nanas, elles se disent « Ah, je sais pas s'il veut. » Mais si elles sont pas prêtes à accepter de doigter leur copain à leur bouffer le cul, ben, le mec, il va avoir envie... Mais il va pas l'exprimer parce qu'il va se dire, elle va croire que je suis gay. Parce que beaucoup d'hétérosexuels rapportent ça à l'homosexualité. Alors que pas du tout, c'est pas parce
que. C'est vrai, le plaisir prostatique.
Mais non, c'est pas.
Tant qu'on a une prostate.
L'apanage des gays. Et le cancer de la prostate, il dit pas, ah ben je vais aller que chez les gays ou que chez les hétéros. La maladie en général, elle va partout. Donc moi, mon discours avec mes amis, on parle énormément de cul, mais aussi, je suis sérieux, je vous rassure. Hein.
Et de parfums d'intérieur.
Et de parfum d'intérieur. Très
bah ouais.
Merci Iker. Donc non, l'idée c'est de se dire que...
T'arrêtes de mettre autant de marques dans mon podcast, là, en plus des marques de merde, qui vont me donner zéro thune. Toi, tu as le droit d'avoir des parfums Ikea.
Ouais, enfin, ce que j'aime bien, c'est que vous savez, on dit qu'on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, on a les amis qu'on mérite. Et moi, je suis content parce que je suis entouré de gens où il n'y a absolument aucun tabou, hétéro ou homo. Alors j'ai très peu d'amis homo. Bon, c'est pas fait exprès, c'est comme ça. Je suis surtout entouré d'hétéros. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, vraiment, on parle de tout et on est à l'aise avec tous les sujets.
Bah ouais.
Je suis peut-être le plus cochon dans ma discussion avec eux. mais ça les fait pas fuir parce qu'on aborde vraiment tous les sujets et on parle vraiment devant les filles et les garçons de tout.
De tout,
et je pense qu'à mon contact, ils se lâchent et ils avouent des choses qu'ils m'auraient pas avouées avant, quoi.
Justement, en parlant de libérer la parole, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore participé, car on arrive à la fin de notre, vers la fin de notre partie 2. Merci Marc. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas, ils ont envie de dire un petit que tru? Ah là, les gens regardent leurs pieds en mode ah, Victor. Salut.
Salut. Ben, je voulais rebondir sur le. Dans la rubrique j'ai donné un orgasme prostatique, moi ça m'est arrivé qu'une seule fois. Je précise que je suis assez rarement actif et que donc là je vais donner le contexte parce que je pense que ça va cocher certaines cases de la liste des circonstances et
du
décor qui peut aider et mais pour le coup c'est enfin, ça m'arrive pas forcément très souvent, mais c'est un mec que j'ai vu qu'une seule fois. Qui. Je crois que lui, il n'avait pas eu de sexe depuis très 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 longtemps. Genre, enfin, en mode, il sortait un peu de prison, quoi.
En vrai, il sortait de prison.
Non, il sortait pas de prison, mais ah. Je crois qu'il n'avait pas baisé depuis 6 mois, un truc comme ça. Ce qui, du coup, m'arrive pas très souvent non plus.
Mais en prison, on peut avoir des rapports sexuels.
Alors, oui, en effet. Bon, peut-être que ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Je sais plus exactement ce qu'on a eu comme sexualité. Ça a dû durer bien 2 heures. On a pris du temps. Moi, j'aime bien prendre mon temps. J'aime bien tout ce qui est caresse, câlin. Il a dû me pénétrer, je pense. Mais j'ai plus le souvenir. Enfin, en tout cas, on a créé une connexion, même si c'est la première fois qu'on se voyait. Ouais. On a pris notre temps. Il n'y avait pas de parfum d'intérieur chez lui. En tout cas, pas que je me souvienne. Le décor n'était pas particulièrement cinématographique non plus. Sexuellement, ça a été assez sympathique. Il a joui. Donc, au bout de 2 heures. Et puis après, il me demande ah, tu peux me doigter, s'il te plaît? Je fais bah, évidemment, j'y vais.
Ok.
C'était. Et là, donc, je commence à lui masser la prostate. Mais vraiment, et au bout de, je sais pas, quelques minutes, même pas, il commence à être secoué de spasmes. Et là, j'étais là, oh, mais c'est comme si j'avais vu une licorne, en fait, parce que pour moi, c'était toujours, ça avait toujours, c'était resté dans le mythe.
Ouais.
Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir anal sans forcément avoir été un jour secoué de spasmes. J'ai eu du plaisir anal qui pouvait durer pendant plusieurs heures après les rapports. Mais pas d'être secoué de spasmes. Donc moi ça m'a impressionné.
Ouais.
Puis j'ai vu qu'il adorait ça, donc moi j'ai continué. Ça lui arrivait 3 fois de suite.
Et c'était fort, c'est-à-dire tu massais. Parce que là t'as fait un geste où on a l'impression que tu l'as perforé avec un avant-bras.
Avec un marteau-piqueur, non. C'était pas en mode chantier, on perforait
c'était
pas
doux.
le bitume, un marteau-piqueur. Non, j'y allais vraiment doucement.
Ouais.
Je devais avoir 2 doigts et puis je vais des petits ronds sur la prostate. Donc évidemment, comme vous expliquiez. Denis Guillaume avant, enfin vers le haut, puisqu'il était
sur le dos.
Ouais. Je le cherchais vers le haut et de cette petite chatte.
Il avait les jambes
massées, en fait.
Il avait les jambes écartées.
Je crois. Oui, je pense. Oui, j'imagine. J'ai plus à le souvenir. J'ai plus la photo en tête, mais je pense, ouais. Et donc j'allais tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et il est devenu dingue.
Okay.
Et j'étais là, waouh.
Et c'est intéressant parce que tu as noté, il avait déjà éjaculé.
Oui, il avait déjà éjaculé, donc c'est vraiment, ça n'a aucune corrélation. C'est ça que j'ai trouvé intéressant.
Mm.
Et je l'ai vraiment vu, limite, possédé quoi, par le truc. Moi, ça m'a fasciné. Moi, j'ai voulu le revoir, il n'a jamais voulu. Je ne sais pas pourquoi.
Oh.
Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout.
Il est retourné en prison, peut-être.
Peut-être qu'il faisait ça mieux là-bas. Bref, voilà, ça c'est mon expérience de l'orgasme prostatique. Et j'étais là, ouais, ça existe.
Et toi, tu l'as pas ressenti sur toi.
Moi, j'ai déjà ressenti des étincelles au niveau de la prostate. Mmh. J'ai le simulateur prostatique, l'anéros, qui vibre pas, celui dont tu as parlé avant. Je l'utilise pas forcément hyper souvent. J'ai un peu du mal à prendre du temps pour l'utiliser, mais c'est un de mes objectifs d'atteindre ça.
Super.
Voilà.
Et la technique de l'horloge, t'avais renommée de la boussole.
De la boussole. J'ai testé une fois, très récemment. Ça marchait bien. Ouais, si. Si, si, ça marche bien.
Ok.
Après, j'ai pas de retour particulier, de trucs particuliers.
Bah, moi, j'ai testé et j'ai trouvé que c'était ouf, quoi. Voilà. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça. Joël demande le micro. Moi, j'ai vraiment trouvé que ça. En fait, ça retardait, ça ralentissait un moment. Après, ouais, j'avoue, Jeff disait à juste titre, on n'était pas là en train de compter et c'était pas mécanique et tout. Mais ça. Après, peut-être que j'ai des partenaires qui vont trop vite pour moi, possiblement, et je me suis déjà fait la réflexion. Voilà, donc j'étais très content de cette technique. Joël.
Alors moi, c'est juste pour partager une anecdote. Voilà. La technique de l'horloge, donc, je ne connaissais pas le nom et je l'ai essayé il n'y a pas longtemps. Mais pour dire en fait que c'est dans un contexte pas du tout sexuel, on l'a effectué sur moi. En fait, c'était chez le promptologue.
Ok. Et...
voilà. Et franchement, je sais pas si c'est dû à son métier, mais j'ai failli bander quand il l'a fait. Quoi.
Donc, voilà. Mais pourquoi ton proctologue ? Parce que la technique de l'horloge, ça dure assez.
Non, mais
il avait besoin de.
Ben, en fait,
c'était un toucher rectal.
C'était un toucher rectal, quoi. Et il vérifiait s'il n'y avait pas de récidive suite à papillomatose.
D'accord.
Tu
avais des condylos, mais il vérifiait parce que il avait juste une demi-phalange.
Oui, enfin, il faisait le tour, là. Donc, 3h, 6h et tout, là.
Ok.
Et j'ai failli bander, quoi. Donc, bon. Voilà. Donc, c'était juste...
Bah, je te remercie de cette anecdote qui va peut-être conclure cet épisode. Est-ce que quelqu'un a une dernière... Red a une dernière bafouille ? Vas-y. Le micro, s'il te plaît, Joël. Pour Red, qui est notre co-chef prostate...
Juste une question, en fait. Je voulais juste poser une question à Joël. Mais est-ce qu'on a besoin d'un proctologue à chaque fois pour faire la technique de la boussole ou...
Non.
Non,
non,
ça
pas... non, tu peux toi-même, avec ton doigt, ou trouver un partenaire qui n'a pas forcément un diplôme en proctologie.
Ah, d'accord, ok. Ouais.
Tant mieux.
C'est par Doctolib à chaque
fois. Bon, ben merci, c'était trop cool. Merci d'être venu. Merci Le Bar, merci Marsha. Et Yélem. Et Julien, qui ont pris soin de nous, de vous. J'oublie personne. J'ai remercié tout le monde ou pas ? Ouais, je crois. Et Denis, bah oui. Oh, bah Guillaume, merci Denis.
Merci, merci.
Merci beaucoup. À très vite. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment-devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur « s'abonner » ou « suivre » sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment-devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.